Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h.
Le journal, en français facile.
Adrien Delgrange.
16h, temps universel, nous sommes le vendredi 17 janvier. À la une de cette édition, cet accord trouvé entre Israël et le Hamas. Il manquait le feu vert du cabinet de sécurité israélien. C'est désormais chose faite, nous sommes pour cela à Jérusalem, le cessez-le-feu devrait être appliqué à partir de dimanche, ce qui n'empêche pas l'armée israélienne de bombarder encore aujourd'hui Gaza. 88 morts en 24 heures, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est au Liban voisin, le chef de l'État français et le premier président venu à Beyrouth soutenir les nouveaux dirigeants libanais. Dans ce journal aussi, après de nouvelles accusations d'agression sexuelle de l'abbé Pierre, l'Église demande l'ouverture d'une enquête à la justice. Et puis enfin, le prochain président des États-Unis demande à 3 stars d'être ses yeux et ses oreilles à Hollywood, 3 acteurs nommés ambassadeurs spéciaux de Donald Trump. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après plus de deux jours après l'annonce d'un accord trouvé entre Israël et le Hamas, le cabinet de sécurité israélien a donc donné son feu vert, son accord, son aval pour une nouvelle trêve avec le Hamas. Le cessez-le-feu entrera en vigueur ce dimanche, pour mettre un terme à 15 mois de guerre dans la bande de Gaza. Cet accord permettra aussi la libération de certains otages israéliens et de détenus palestiniens. Alors, après cet accord du cabinet de sécurité, c'est maintenant au gouvernement israélien d'approuver le texte. Les précisions de Sami Bourlefa à Jérusalem.
Cet accord prévoit durant sa première phase la libération de 33 otages israéliens sur un total de 98 personnes encore captives. La liste des 33 premiers libérables a été publiée aujourd'hui. 2 enfants, 10 femmes, les autres sont des hommes. On ignore tout de leur état de santé et s'ils sont morts ou toujours en vie. Israël doit libérer en contrepartie 1 000 000 de détenus palestiniens. Les critères de l'État hébreu pour la libération de ces prisonniers ont également été révélés. Les renseignements israéliens mettent leur veto sur la libération de dirigeants palestiniens importants. Ils préconisent de relâcher les détenus âgés et ou souffrant de maladies graves. Et enfin, la libération des Gazaouis emprisonnés après le 7 octobre 2023, mais non impliqués dans l'attaque du Hamas. Les Palestiniens accusent Israël d'avoir arrêté des milliers de civils Gazaouis de manière préventive pour en faire une monnaie d'échange en prévision de cet accord. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu sera accompagnée d'une entrée massive de l'aide humanitaire, 600 camions par jour, soit autant qu'avant la guerre. Sami Bourlefa, Jérusalem, RFI.
Et à l'instant, Israël dit que 95 Palestiniens doivent être libérés dans le premier échange d'otages et prisonniers prévu ce week-end. Le président français, je vous le disais, est au Liban. Le chef de l'État est d'abord venu apporter son soutien aux nouveaux dirigeants du pays. Joseph Aoun a été élu président du Liban le 9 janvier dernier. Dans la foulée, Nawaf Salam a été désigné Premier ministre. Et dans ses prises de parole, Emmanuel Macron a d'abord salué les premiers résultats du cessez-le-feu conclu en novembre dernier, cette fois-ci entre le Hezbollah et Israël. Mais aux yeux du président français, il faut accélérer le processus et aboutir à un retrait total des forces israéliennes du Sud-Liban, ce qui n'est toujours pas le cas.
L'accord de cessez-le-feu, nous le savons ici, a marqué la fin d'un engrenage de violence insupportable qui a causé de trop nombreuses souffrances pour les populations civiles des deux côtés de la frontière. C'est un succès diplomatique précieux qui a permis de sauver des vies que nous devons consolider. J'ai pu faire le point ce matin avec le commandement français et américain. Des résultats ont été obtenus, un premier retrait israélien opéré à l'ouest, mais ils doivent s'accélérer, se confirmer dans la durée. Et il faut un retrait total des forces israéliennes, un monopole total de l'armée libanaise sur les armes. C'est pourquoi nous soutenons, je le redis ici avec force, la montée en puissance des forces armées libanaises et leur déploiement dans le sud du pays. Les forces armées libanaises constituent un pilier de la souveraineté du Liban. Et il faut donc continuer à accélérer le recrutement, consolider l'appui international d'équipement, de formation, de soutien financier.
La présence des militaires israéliens au sud Liban, sujet qu'Emmanuel Macron doit évoquer avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est également en visite à Beyrouth. Et puis enfin, le président français a annoncé que la tenue dans quelques semaines d'une conférence internationale à Paris qui aura pour but la reconstruction du Liban. Le pays sort d'une guerre avec Israël. Cette autre visite marquante du jour, Massoud Pezeshkian est à Moscou, le président iranien reçu par le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont signé un accord de partenariat stratégique qui prévoit le développement de leur coopération militaire. Ils ont prévu prochainement la tenue d'exercices militaires.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Les accusations d'agression sexuelle de l'abbé Pierre s'accumulent. Longtemps figure adorée des Français pour son action envers les plus démunis, l'abbé Pierre est décédé en 2007. Il est aujourd'hui visé par 9 nouvelles accusations de violence sexuelle, ce qui porte à 33 le nombre total de témoignages contre le prêtre. Sylvie Coffi, ce vendredi, l'Église demande d'ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre par la voix d'Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France.
Après les nouvelles révélations d'agressions sexuelles contre l'abbé Pierre, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, sur la radio RMC, se montre indigné.
L'horreur, l'émotion, et puis c'est de penser aux personnes, à ces personnes victimes qui ont parlé, qui nous racontent des choses vraiment effroyables. Et toutes ces victimes n'ont pas pu parler, n'ont pas pu être entendues. Et ça, c'est une question que nous devons tous collectivement nous poser. Pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas pu parler jusqu'à maintenant ? Ou, parce qu'apparemment certaines ont parlé, elles n'ont pas été entendues.
Il s'agit de comprendre comment l'abbé Pierre a pu agir pendant toutes ces années sans être inquiété.
J'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander de réfléchir à ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre. Un avocat m'a expliqué qu'il était possible de le faire de manière à ce qu'on puisse enquêter sur d'éventuelles d'autres victimes, sur d'éventuels complices et sur des non-dénonciations.
Car après un troisième rapport publié cette semaine par la commission d'enquête mandatée par Emmaüs, seule la justice dispose de plus de moyens pour permettre de connaître toute la vérité.
Sylvie Coffi, RFI à Bogota, il est 11h08. Le président colombien stoppe les discussions avec le LN. Gustavo Petro annonce avoir suspendu les négociations de paix avec la guérilla de l'armée de libération nationale. Et décision prise à la suite d'une journée de violence durant laquelle quelques 30 personnes sont mortes à la frontière avec le Venezuela. Ce qu'a fait le LN dans la région de Catatumbo, ce sont des crimes de guerre. Le NL ne démontre aucune volonté de faire la paix, vient de déclarer le président colombien. Et puis enfin, à 3 jours maintenant de l'investiture de Donald Trump, ses soutiens s'organisent dans tous les pans de la société, y compris à Hollywood, bastion traditionnellement démocrate. Hier, le président nouvellement élu a symboliquement fait ambassadeur dans l'industrie du divertissement 3 acteurs controversés. Sophie Torlotin.
C'est sur son propre réseau social que Donald Trump a annoncé solennellement faire de John Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone ses, je cite, ambassadeurs particuliers dans cet endroit majeur mais très agité qu'est Hollywood. Le président élu se réjouit que ces acteurs, qui cumulent à eux 3 10 nominations aux Oscars et 3 trophées, puissent être ses yeux et ses oreilles pour, écrit-il, retrouver l'âge d'or de l'industrie du divertissement. Ces 3 émissaires spéciaux détonnent dans un milieu progressiste, sensible au politiquement correct. À 86 ans, John Voight, le père de la superstar Angelina Jolie, est accusé d'avoir giflé l'acteur Frank Whaley lors d'un tournage il y a 4 ans. Mel Gibson, connu pour ses prises de position ultra-conservatrices, a été accusé à de nombreuses reprises d'antisémitisme, racisme, homophobie et violence conjugale. Enfin, Sylvester Stallone, dont les rôles emblématiques de Rocky et Rambo exalte des représentations virilistes, a été accusé de viol et agression sexuelle, accusations qu'il a démenties et qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.
Ainsi se referme cette édition, à retrouver quand vous voulez avec son texte sur françaisfacile.rfi.fr. L'heure à présent, comme tous les vendredis, de retrouver sur RFI et France 24, le Café des Sports.